Chapitre 12. Ce fut, comme elle l'en avait prévenu, après le départ de Boulnois, que le samedi, elle se présenta à la porte de l'étude. Mais, au lieu d'entrer, elle s'arrêta sur le seuil, un pied dans le jardin, avec une attitude d'une innocence parfaite, celle d'une femme qui n'a qu'un mot sans importance à dire en passant. « Je reste là !» dit-elle en sifflant ses paroles à mi-voix. « Car Célanie, qui erre dans la maison, peut passer dans le jardin, un client peut survenir, et ma présence n'a rien que de naturel, puisque je viens chercher les journaux. Toi-même, ne quitte pas ton bureau. Nous pouvons très bien causer ainsi, sans élever la voix. Ce n'est pas quand nous allons avoir les nuits à nous qu'il faut commettre des imprudences inutiles. » Il s'est élevé, il se rassit. « Eh bien, dit-elle, que s'est-il passé ?» Il répondit sur le ton qu'elle avait pris. Il a très bien avalé son grog. Sans dégoût? Aucun. Sans s'apercevoir de rien? De rien, si ce n'est que le sucre avait mal fondu. Quelle heure était-il? 8 heures. Et le sommeil est venu? Vers 11 heures. J'étais montée dans sa chambre et, pour avoir un prétexte à rester, je m'étais mise à lire haut un roman que j'avais trouvé là. Quand je vis qu'il fermait les yeux, je lui demandai s'il était souffrant, en lui disant que je le trouvais pâle, afin de rester pour le soigner. Il me répondit qu'il tombait de sommeil. Il se mit au lit et aussitôt s'endormit, sans avoir conscience de ma présence, d'un sommeil calme, si profond que ni la lumière passée devant ses yeux, ni les bruits que j'ai augmentés progressivement ne l'ont troublé. À 3 heures, il dormait encore. J'ai été alors me coucher, jugeant l'expérience suffisante. À 6h30, je suis remontée, il dormait toujours. J'ai eu peine à le réveiller, il était comme hébété. Voilà qui est parfait, un seul point me dérange, le temps qu'il faut pour amener le sommeil. Il est rare que nous dînions avant 7h30 et par conséquent que M. Courteheuse boive son grog avant 9h30. Le sommeil n'arriverait donc à 1h30, ce qui est trop tard. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais avancer l'heure du dîner. Voudra-t-il? Elle haussa les épaules. Me crois-tu assez sotte pour rester court devant une difficulté de ce genre? Désormais, nous dînerons à 6h30. À 8h30, il boira son grog. À 11h, il dormira. À 00h, je serai dans tes bras. Horaire de chemin de fer. Et comment rentrerai-je? « Simplement par la petite porte de la cour. À 00h, tu viendras par le quai. Si ma veilleuse brûle devant ma première fenêtre, c'est que je t'attends. Si elle brûle devant la seconde, c'est qu'un empêchement est survenu. Quand tu auras vu le bon signal et que tu seras certain que personne ne peut te surprendre, tu t'engageras dans la ruelle. À 00h05, j'aurai ouvert la serrure et tiré les verrous de la petite porte. Tu n'auras donc qu'à soulever la clenche. » Comme je serai aux écoutes, j'irai au-devant de toi pour t'amener dans le salon où nous aurons 3 heures à nous. Crois-tu que cela ne vaudra pas mieux que le kiosque? Sans doute l'escalade, le balcon, le bruit de l'eau avaient leur côté romantique. Mais la sécurité a bien aussi ses charmes. Qu'en dis-tu? Ne suis-je pas ta chose? Ne penses-tu pas? Ne veux-tu pas pour moi? En réalité, mes paroles ne sont qu'une répétition des tiennes, « gai, tendre, passionné. »« Passionné toujours, mais ce que tu dis là, je peux le dire encore bien mieux de toi. »« Oh ! » !»« Sincèrement, entre nous, s'il y a une volonté dirigeante, c'est bien la tienne. Au moins en ce sens que je n'ai pas d'autre idée, d'autre pensée que de prévenir tes désirs, d'autre but que de les contenter. » Quand tu me regardes, tu fais de moi ce que tu veux, je t'appartiens, je me jetterai à l'eau, je traverserai le feu, je tuerai le sourire aux lèvres qui nous gênerait. Quand tu ne me regardes pas, je t'appartiens bien plus complètement encore, puisque je n'ai pas d'autre préoccupation que de savoir à quoi tu penses, ce que tu veux, ce que tu attends de moi, ce que je dois faire. Est-ce que la façon dont je me suis jetée à ton cou ne prouve pas mieux que tout, que, dans ce que je dis là, il n'y a ni illusion, ni fantaisie, ni exagération. Le hasard permet que nous montions dans un wagon où nous nous trouvons en tête à tête. Tu t'assieds vis-à-vis de moi, tu me regardes. Tu me regardes aussi. Sous l'influence irrésistible que tes yeux exercent sur les miens, sur mon esprit, sur mon cœur, sur mon être tout entier, ému, bouleversé de la tête aux pieds, si complètement, si profondément, que j'étais défaillante de bonheur et d'angoisse. Tu avances les mains en me souriant. Tu avances aussi les tiennes. Attiré par ce sourire, et sans un mot de prière ou de refus, nous nous trouvons dans les bras l'un de l'autre. De qui venait l'attraction ? De toi. De toi. Pourquoi pas de tous deux ? D'accord, mais à condition que tu reconnaîtras que la volonté d'une femme faible ne peut dominer celle d'un homme comme toi. À ce moment, la grille du quai fut ouverte par un paysan. Elle ne bougea pas, mais baissant encore la voix, « Je vais aller dans le kiosque, dit-elle, d'où je te regarderai. Regarde-moi aussi, nos yeux continueront notre entretien. À ce soir !» Ce ne fut pas seulement quand le client fut parti qu'elle le regarda. Ce fut encore quand, après le retour de Boulnois, il alla déjeuner et passa sous le balcon du kiosque, puis quand il revint. « À ce soir !» disaient leurs regards échangés. Cependant, malgré l'assurance avec laquelle elle lui avait dit qu'elle avancerait l'heure du dîner, elle n'était pas sans inquiétude sur la façon dont se passerait la soirée et sur les facilités ou les difficultés qu'elle pourrait rencontrer à faire avaler le sulfonal à son mari. Courteuse, qui descendait toujours le matin de bonne heure dans son cabinet, ne travaillait jamais le soir à moins d'urgence. Et la journée bien remplie, car il était aussi grand abatteur de besogne que grand mangeur et grand buveur, finissait pour lui au dîner. En quittant la table, il allait, toutes les fois que le temps le permettait, prendre son café dans le kiosque. Il restait là, avec sa femme près de lui, jusqu'au coucher, à lire les journaux en fumant des pipes. Quand les gens qui passaient lui plaisaient, il les arrêtait pour causer un moment, eux sur le quai, lui à son balcon. On disait des riens, on parlait politique, on échangeait des constatations ou des pronostics sur le temps. Il a fait chaud aujourd'hui, il fera encore plus chaud demain. Mais jamais il n'invitait personne à entrer pour prendre une tasse de café, fumer un cigare, boire un verre de bière ou un grog. Car il était resté pour l'hospitalité le paysan âpre de sa jeunesse et avant d'offrir quelque chose, il calculait toujours ce que cela pouvait lui coûter. Pourquoi se mettre en frais avec des gens qui ne vous rapporteront rien ? Dans les premiers temps de leur mariage, sa femme lui avait quelquefois demandé de faire une promenade sur les bords de la Seine jusqu'à Aurival ou dans les prairies jusqu'à la chapelle. Mais bien vite, elle y avait renoncé, rien de ce qu'elle aimait et dont elle aurait eu plaisir à parler, n'ayant d'intérêt pour lui. La douceur du soir, la poésie de la nuit, le mystère de l'ombre, le clapotement du courant entre les îles aux rives confuses, les bruits lointains des vapeurs en marche, le fantastique des brumes flottant sur la rivière. La première fois qu'elle avait voulu lui faire admirer le paillettement de la lune tremblant sur le remous des eaux, il avait répondu que cet effet était bien naturel puisque la lune atteignait son plein. Et, un soir qu'elle voulait rester dehors pour suivre la montée du brouillard sur les prés, il l'avait fait rentrer au plus vite, de peur de gagner une fluxion. Elle se l'était tenue pour dit. À quoi bon se promener en tête à tête si c'était pour marcher côte à côte, sans échanger un mot, et n'avoir à parler qu'à son caniche qui sautait autour d'elle. Maintenant, s'il sortait, ce n'était guère que quand Turlure, passant sur le quai, les invitait à faire un tour. Courteuse aimait parler politique avec lui, ou plutôt à discuter. Car il n'avait pas du tout la même opinion, ni les mêmes idées en rien. Turlure était républicain, presque socialiste, au moins en cela qu'il s'intéressait aux petits, et prenait volontiers la défense des ouvriers contre les patrons, ce qui lui avait acquis une influence considérable à Oissel, pays de fabrique. Courteuse, au contraire, était autocrate et haïssait le peuple. Fils de ses œuvres, comme il disait en parlant de lui-même, il méprisait les pédants. Tandis que Turlure, qui ne méprisait personne, plaignait ceux qui n'avaient pas eu le bonheur de faire leur classe. N'est pas nourri des fortes études classiques, était une condamnation dans sa bouche. Ne sait pas le latin, en était une autre. Il poussait si loin l'amour du latin qu'il ne parlait pas une autre langue avec ses quatre fils aînés, gamins de 7 à 12 ans, et que le dernier, qui sortait du maillot, savait déjà que c'était dans son nez qu'il devait se fourrer les doigts, quand son père lui demandait où était son Asus. Ces divergences d'esprit et ces différences d'éducation amenaient entre eux de longs colloques qui prolongeaient la promenade et aussi de terribles discussions dans lesquelles on s'échauffait de côté et d'autre, mais sans aller jamais jusqu'à des querelles sérieuses ni jusqu'à la brouille. D'ailleurs, quand Hurlure jugeait qu'il avait collé son adversaire d'une façon trop serrée qui pouvait l'avoir blessé, il avait une manière de faire la paix et de s'excuser infaillible. « Votre gorge ne s'est-elle pas desséchée ? » disait-il. « Je propose de rabattre par la pharmacie et de prendre un garus. » Cet élixir de garus, que Turlure préparait lui-même amoureusement avec des produits de première qualité, était une liqueur que le notaire aimait assez pour ne refuser jamais cette invitation, si vexé qu'il fût. Et on se dirigeait vers la pharmacie qui s'annonçait de loin par les feux verts et bleus allongés en deux rayons éblouissants sur la chaussée. Invariablement, on trouvait assise derrière le comptoir Madame Turlure et sa belle-sœur, qui se reposaient béatement des fatigues de la journée, pour elle assez rude. Car la famille, en plus de deux filles au collège et de deux autres qui allaient à l'école, se composait d'une vieille mère paralysée, de deux petites filles, du latiniste en jupe courte, et c'était elle qui, sans bonne, faisait tout dans la maison. Ménage, cuisine et couture, pour 13 personnes, y compris les deux élèves. À déguster le garus, la soirée se prolongeait, et ces jours-là, on se couchait plus tard au notariat. Comment manœuvrerait Hortense si, par hasard, Turlure passait sur le quai et les appelait pour faire une promenade ? Et qu'arriverait-il si, après l'absorption de la drogue, on allait finir la soirée à la pharmacie ? Là, il pourrait tomber de sommeil comme Fauchon, et le pharmacien ne manquerait pas de s'étonner de cette envie de dormir, se manifestant d'une façon si brusque et si insolite. Ce n'était pas avec un homme comme lui qu'on pouvait risquer une imprudence, car ce n'était pas seulement de sa curiosité toujours en éveil qu'il fallait se méfier, c'était aussi de son savoir professionnel.